CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur CFM Radio dans ce MAG pour la première des conférences du cycle organisé par l'Université Populaire de Caussade autour du langage, la frontière entre le normal et le pathologique nous sera développée dans la deuxième partie pour le moment. Et puisqu'on est mardi, il est temps de retrouver Victor Le Guénec pour la chronique des coups de cœur du réseau des médiathèques.
Bienvenue sur les coups de cœur des médiathèques du QRGA. Et aujourd'hui, on parle nature, rythme, extinction et lumière. Avec, tout d'abord, ce roman de Richard Vaganese, « Les étoiles s'éteignent à l'aube », qui nous narre l'histoire de Franklin dans les terres sauvages du Canada, élevé par un vieil homme à l'indienne, dans une ferme isolée, élevé au rythme des saisons, de la chasse et du travail de la terre. À 16 ans, il n'a jamais connu sa mère et n'a aperçu son désastre de père que 5 ou 6 fois. Jusqu'au jour où son géniteur, Eldon, détruit par l'alcool, mourant, le réclame. Il veut être enterré en pleine nature, comme un indien, comme un guerrier. Et s'ensuit une expédition en pleine forêt et le récit du père. Un roman simple, direct, sans détour autre que ceux qu'empruntent les deux protagonistes, qui n'ont de parents que le nom. C'est d'une tristesse effroyablement sévère, sans jamais tomber dans le pathos. Eldon est un être veule, détestable, au comportement inexcusable. Et là, je périphrase pour rester radiophoniquement poli. Mais Franklin l'emmène en dépit du passé, naturellement, mais sans pardon. Un pardon que le daron ne recherche pas d'ailleurs. Il veut raconter son histoire. Pas pour s'excuser ou se justifier, juste pour dire, une fois, la vérité. C'est rugueux, taiseux, d'un bout à l'autre avec un silence et une nature omniprésente qui couvre les rapports tendus mais paradoxalement totalement francs et sincères du père et du fils, de l'alcoolique et du rejeton, avec une écriture d'une sobriété éthylique, sombre et dure, mature et extrêmement touchante par moments. En bref, un texte pudique, tragique et pourtant magnifique et saisissant, toujours juste et rempli d'émotions, mais à vous qui explorez ce roman, préparez-vous. Préparez vos mouchoirs. Après lecture, ça vous reste en travers de la gorge avec un petit goût d'amertume doucereux qui nous laisse muets. Une adaptation en BD par Vincent Turane, présente aussi dans le réseau, ajoute à cette histoire des touches de couleurs, certes froides, mais qui enveloppent parfaitement ce récit. Mais tout de suite après l'extinction des étoiles, on passe à l'ombre des soleils, avec le tailleur de cire, Wax Taylor, et son album The Shadow of the Suns. Pardonnez mon accent. Plus qu'un album, d'ailleurs, une histoire construite, enténébrée, mais cadrée vers la lumière. Reste à choisir si c'est le bout du tunnel ou un éclair d'espoir. On avait l'habitude de plus colorer, mais ici, dès la jaquette, on entrevoit l'élégance sombre des morceaux qui vont suivre. Un 6e album de 13 titres qu'on a attendu longtemps. Le temps, et là je cite, « le temps pour observer la lumière depuis l'ombre, le tourbillon de la vie, ses excès, ses dérives et ses violences symboliques ». Un album donc qui se dépeint en noir, mais en reprenant les classiques, en mixant samples, scratch, instruments et voix, le tout bien rythmé, avec une touche hip-hop, c'est une musique qui réveille les morts. Littéralement, on y entend Jill Scott Heron, l'un des pères du rap, qui vous chatouille les esgourdes avec une suavité indocile. Et toute une tripotée d'invités de luxe dont je vous épargne la liste, c'est modeste, économe, mesuré, et ça vous donne une sensation d'on d'entendre l'obscurité. En clair, à écouter avec une veilleuse. Et puisqu'on cause lumière, l'album s'achève tout de même sur The Light, message d'espoir dans un monde qui sombre. À écouter d'urgence. Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Vaganese et The Shadow of the Sun de Wax Taylor. Deux œuvres ténébreusement lumineuses à retrouver dans votre réseau des médiathèques favoris. Bonne écoute et à bientôt.
Et toutes ces chroniques des coups de cœur du réseau des médiathèques sont à retrouver en podcast sur le site de CFM Radio.
Pega aqui o ônibus aí, irmão, pra correr pra lá. Pega o 79. O 79? Eu vou a pé mesmo, mano. Vou correndo, mano. Corre aí, então, velho. Vai. Corre, meu irmão. Corre. 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 Corre.
Na noite, no escuro, quando o Silva sai pra trabalhar, Deus sabe a hora, Deus sabe quando vai voltar. Ele botou no contra-cheque casa própria, sonho de consumo que ele vai comprar. Sábado à noite ele quer sair na night. 63, ele é vida, ele é fiel. Academia na orelha, é limão com mel. Esteira queima o excesso com medo de ir pro céu.
Je suis tatouée comme ça, là.
De plus, j'ai arrêté les deux comme ça.
Corre do problema, corre da dor. Ai, 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 eu. Corre do problema, corre da dor. Ai, ai, ai.
De retour dans ce mag où on vous propose la première des conférences du cycle proposé par l'Université populaire de Caussade. C'est là, c'est ce samedi, ce sera toujours à 16h30 à la salle des conférences des Récollets. Et ce samedi, c'est autour de la frontière entre le normal et le pathologique, le cas du langage pour le handicap. C'est une conférence qui est proposée par Jean-Luc Nespoulous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite en sciences du langage de l'Institut universitaire de France. Alors, on va commencer comme ça. Qu'est-ce que c'est les sciences du langage?
Les sciences du langage, c'est ce qu'on appelait dans les années 60 la linguistique générale. Et la linguistique a été immédiatement convoquée lors de la création de l'orthophonie. Discipline qui n'existait pas véritablement avant. Avant, c'était soit des psychologues, soit parfois même des infirmiers qui essayaient d'aider en particulier les enfants, mais également des adultes ayant été victimes d'accidents vasculaires cérébrales, essayer de les aider, de les améliorer, ce qui n'était pas facile. Les choses se sont structurées. Donc, à ce moment-là, en 1964, je crois. Voilà.
Mais là, vous nous parlez du langage en termes de mécanique, de physique.
Non, alors là, il y a plusieurs... il y a plusieurs approches que je compte évoquer, effectivement, lors de ma conférence de samedi. Il y a une approche strictement linguistique, c'est-à-dire, comment sont structurées les langues. Tout le monde en a une vague impression, mais grâce à la linguistique dans les années 60 et un peu avant, on peut dire que l'approche est devenue de plus en plus scientifique et de moins en moins normative. Le mot normatif est important pour la suite de la conférence. Mais à côté de ça, effectivement, pour parler, pour écrire, pour lire, pour comprendre le langage oral, on a besoin de mettre en marche toute une série de mécanismes qui sont soit psychologiques, soit neurologiques. Donc, en fait, on a besoin d'au moins trois disciplines qui, maintenant, sont habituées à travailler ensemble: la linguistique, la psycholinguistique et la neuropsycholinguistique. Voilà. Donc, on est, en fait, à la croisée de plusieurs disciplines. C'est une démarche éminemment pluridisciplinaire, disons. Voilà.
Et alors, le normatif dans tout ça?
Le normatif, à l'origine, d'ailleurs, quand on parlait de grammaire, puisque c'est le vieux terme qui était utilisé, on parlait de grammaire normative, c'est-à-dire, voilà comment on devrait parler, voilà comment on doit parler. Et puis, petit à petit, on a quand même accepté que tout le monde ne parlait pas de la même façon, qu'il y avait des variations d'une région à une autre, d'un individu à un autre, chez le même individu d'un instant à un autre, en fonction de sa fatigue, de son état psychologique, etc., etc. Et donc le mot grammaire a pratiquement disparu, et c'est les termes que je viens de mettre en place là, qui sont venus à la place. Voilà.
Est-ce que la frontière est concrète, alors, entre le normal et le pathologique?
Non, alors justement, la question qui se pose, c'est de savoir si, de certains points de vue, toute variation est acceptable, ou si, effectivement, il y a, certaines variations ne sont pas tolérés, etc., etc. Et ça varie beaucoup en fonction du contexte familiale et scolaire, si on parle des enfants, bien entendu.
Ça, c'est pour des
alors choses. Que jusque-là, la grammaire que j'évoquais à l'instant, la grammaire disait plutôt comment il faut parler plutôt que comment les gens parlaient. Voilà.
Alors la grammaire, ça s'apprend. Un accent, ça se gomme. Un zozotement, ben, on va voir l'orthophoniste et hop, ça passe. Par contre, un dysfonctionnement neurologique, là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est
et tout. Voilà, alors effectivement, il y a, c'est un point que j'évoquerai dans ma conférence, il y a des variations, hein, des variations de degré. Mais pas nécessairement et systématiquement des variations de nature. Et c'est un grand savant français qui était à la fois philosophe et médecin, Georges Canguilhem, natif de la région, il était natif de Castelnaudary, qui donc a proposé cette formule. Hein, selon laquelle la différence entre le normal et le pathologique est une différence de degré beaucoup plus qu'une différence de nature. Alors ça n'était pas, ça ne s'est pas imposé du jour au lendemain, ça a fait l'objet de pas mal de discussions, mais comme Georges Canguilhem avait une démarche scientifique, effectivement, il a mis un peu d'ordre, si je peux dire, dans la maison, afin de prouver ce qu'il avance, si je puis dire.
Parce que vous, voilà. vous accusez l'espèce humaine d'être un petit peu binaire, c'est-à-dire qu'on veut classer tout dans des catégories qui vont s'opposer, d'où le cas...
Ah non, mais ça c'est effectivement, on peut dire que c'est quand même un problème, et on le retrouve partout, c'est-à-dire que on catégorise les phénomènes très souvent, volontiers, de manière binaire. Je citerai également l'informatique qui fonctionne sur la base d'une logique binaire avec 0 et 1. Et même les évolutions actuelles à l'intelligence artificielle fonctionnent sur des couples binaires, mais un nombre tellement important qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de limite, quoi, si je puis dire. Parce que les capacités de calcul des systèmes informatiques modernes sont plus puissants que les capacités de l'être humain lui-même.
Ouais, zéro nuance, quoi. D'où ce titre, là, cette conférence, la frontière entre le normal et le pathologique, autour donc du cas du langage et donc du handicap. Voilà. Vous, dans votre domaine, donc des sciences du langage, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier cette question?
Bon, bah, disons que lorsque la linguistique générale a été créée, donc classiquement en Europe, on dit qu'elle a été créée par Ferdinand de Saussure en Suisse. Hein. Bon, eh bien, cette approche m'a plu parce qu'elle me paraissait réaliste, c'est-à-dire qu'elle faisait une place importante à la variation. Hein. Il n'y a pas deux personnes qui marchent dans la rue de la même façon. Il n'y a pas deux personnes qui courent de la même façon, qui chantent de la même façon, etc., etc. Et il me paraissait important que cette variation, cette variabilité, fasse l'objet de travaux donc très, très minutieux, y compris, effectivement, dans un domaine comme donc, le langage et sa pathologie. Voilà. Car tout être humain, enfin, il n'y a aucun être humain qui peut prétendre être à l'état normal en permanence du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre. On dérape tous à un moment ou à un autre parce qu'on est fatigué, etc., etc. Je viens d'utiliser le verbe déraper. Un exemple que je prenais souvent avec mes étudiants, c'est que donc à un certain moment, j'ai été nommé à l'Université de Montréal et je n'arrêtais pas de glisser sur les trottoirs verglacés de cette belle ville. Et d'un certain point de vue, j'ai dû presque réapprendre à marcher parce que la marche telle que je la pratiquais auparavant était beaucoup plus, si je puis dire, stable. Il y avait moins de chutes. Hein, bon. Et là, donc, je me suis retrouvé dans une situation où le terrain étant glissant, il fallait que je développe de nouvelles stratégies que je n'avais jamais apprises auparavant. Donc, il a fallu que je me débrouille, que je développe ce que j'appelle personnellement des stratégies palliatives, c'est-à-dire des stratégies qui me permettent de ne pas passer mon temps par terre, si je puis dire. Voilà.
Votre démarche est bien salvatrice, j'ai envie de dire, pour tous les 10 praxiques, 10 calculiques, 10 tout, de se dire qu'il suffit de réapprendre, hein, d'avoir tout simplement une autre voie, de s'adapter à autre chose sans être taxé d'anormal ou de malade.
Voilà, voilà. En fait, le terme que je préfère, c'est le terme de stratégie, donc d'adaptation. Hein, de toute façon, vous comme moi, quand vous montez un escalier, votre marche n'est pas exactement la même que lorsque vous marchez sur un terrain plat, si possible non glissant, etc. Il y a donc des ajustements à faire, mais ces ajustements n'ont pas fait l'objet d'un apprentissage spécifique, comme ce serait le cas si nous parlions, par exemple, de danse. Dans la danse, il y a effectivement toute une série de, comment dirais-je, de postures, de déplacements, de mouvements, devant un écran, etc., devant un miroir, je veux dire, qui permettent de perfectionner cette technique, si je puis dire.
Vous avez mentionné trois disciplines. Alors j'en ai oublié la neurologie, la neuro.
Alors il y a la linguistique, donc qui décrit les structures d'une langue, donc le français, l'anglais, etc., etc. Il y a la psycholinguistique qui elle décrit les mécanismes, hein, les mécanismes psychologiques. On dit de nos jours plutôt les mécanismes cognitifs, c'est un terme qui donc s'est développé, hein, ce qui fait que c'est pas la même chose de produire une phrase en français et une phrase en allemand où, comme vous savez, le verbe est placé en position finale. Donc ça veut dire que je commence une phrase en allemand avant d'arriver au verbe qui est à la fin, ce qui n'est pas le cas en français. Et tout ça est sous-tendu, bien entendu, par le fonctionnement des neurones, hein, etc. Donc ça, c'est le côté, si on peut dire, mécanique cérébral.
Voilà. C'est une conférence bien sympathique que vous allez proposer, du coup, vous allez nous expliquer,
écoutez,
que tout le monde est normal.
Bien sympathique, mais Il y a une métaphore que je pourrais vous citer et qui est en général très parlante pour des gens qui ne sont pas spécialistes de ces domaines. C'est une métaphore automobile. Dans une automobile, les pièces du moteur, je dis bien les pièces du moteur, sont stables, si je puis dire, hein. Les essieux, le volant, bon, etc., etc. Donc ça c'est un premier élément de la métaphore. Le deuxième élément, c'est le fonctionnement du moteur à explosion, qui lui aussi, si votre moteur est en bon état, c'est quelque chose de stable, hein. Donc on a les pièces du moteur et on a les mécanismes. Là on peut utiliser le terme de mécanique, hein, puisque on parle de véhicules, si je veux dire. En revanche, j'en arrive au troisième point. Quand vous conduisez sur un chemin particulier ou sur un autre type de chemin, la situation de conduite dans laquelle vous vous trouvez, elle est variable. Hein? Sauf si vous êtes effectivement systématiquement sur des autoroutes où la variabilité est moindre. Et il y a encore un autre élément qui, lui, est éminemment variable, c'est le conducteur lui-même. Il n'y a pas deux conducteurs qui conduisent exactement de la même façon, de même qu'il n'y a pas deux skieurs qui skient de la même façon. Donc, cette métaphore pour montrer qu'il y a certains phénomènes que l'on peut aborder comme des phénomènes stables, et à côté de cela, il y a effectivement des paramètres, etc., qui sont variables, comme la situation de conduite ou le style du conducteur. Voilà.
De la route au trottoir verglacé de Montréal. En tout cas, on apprendra que tout est possible, que personne n'est handicapé, qu'il n'y a pas de pathologie. Donc, puisqu'il n'y a pas de...
Que on pourrait, mais j'aime pas parce que ça fait un peu grande presse. On pourrait dire, d'un certain point de vue, que nous sommes tous, vous, moi, tout le monde, potentiellement handicapés dans certaines situations particulières. Alors, effectivement, quelqu'un qui présente un cas pathologique, on va dire majeur, là, lui, effectivement, est dans une situation qui est, d'un certain point de vue, stable dans la pathologie. Et c'est là que, effectivement, interviennent toutes ces disciplines qui sont censées aider les gens à améliorer leur marche, hein, à améliorer leur langage. Nous avons vécu l'année dernière les Jeux paralympiques, et puis et vous aurez peut-être entendu parler il y a quelques années du fameux Pistorius, qui a été le premier coureur à courir avec des genres de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, genre de spatule à la place des pieds. Et à un certain moment, Pistorius s'est fait critiquer par des coureurs qui, eux, n'étaient pas du tout considérés comme des cas pathologiques, mais qui ont dit, mais lui, avec son dispositif, sa prothèse en quelque sorte, avec sa prothèse, il est d'un certain point de vue...
Il va plus vite.
En situation avantageux. Plus favorable que nous. Voilà.
Allez, adaptation, alors. La conférence est autour du cas du langage, la frontière, point d'interrogation, entre le normal et le pathologique. C'est donc ce samedi à 16h30 au Récollet à Caussade. C'est une conférence qui est organisée par l'Université Populaire qui sera animée par vous, Jean-Luc Nespoulos. Vous êtes professeur émérite en sciences du langage. Un grand merci, Jean-Luc.
Merci beaucoup.
On peut retrouver plein d'infos sur le site.
Peut-être à samedi si vous êtes disponible. Voilà.
up-caussade.fr, cfmradio.fr. Ça, c'est pour écouter ce mag en podcast. Il sera aussi rediffusé à 18h et à 21h. Là, c'est les infos.